êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier, où je reçois Théodore Bonnet lors du Festival Frames à Avignon. Caché derrière sa caméra, le réalisateur a été à l'initiative de gros projets YouTube comme la série Groom, mais aussi de plusieurs clips pour Squeezie, Norman, Big Flo et Oli. Ancien membre actif du studio Bagel, mais aujourd'hui indépendant, découvrons comment un jeune étudiant est devenu réalisateur pour YouTube et Canal+.
Ben, si t'es ready pour moi, c'est bon.
Quand tu veux.
Ben, écoute, la première question que j'aime bien poser, c'est d'où cet intérêt il vient pour l'audiovisuel en fait. Ça part d'où?
Je pense que ça part d'un enfant qui s'ennuie et qui mate des choses sur internet. Et mes parents aussi qui m'ont montré des films qui les touchaient. C'est vraiment cool. J'aime bien raconter des histoires, enfin j'aime bien en tout cas voir des films. J'aimerais bien savoir comment ça marche. Après à l'époque, le cinéma ça faisait vraiment peur dans le sens où ça paraissait inaccessible.
Ouais.
Surtout quand t'as pas de point d'entrée ou de piston, quoi. Et du coup dans un deuxième temps, ce qui a déclenché moi la volonté de faire des choses. Je me rappelle que j'ai eu l'occasion de faire de la figure dans beaucoup de films, enfin dans beaucoup de films, dans 3-4 films, mais figurant, hein, enfin t'es rien. Et je voyais justement ces équipes de 200 personnes, 4 caméras, des trucs et tout, je me disais mais j'y arriverai jamais, c'est impossible en fait. Comment on passe de rien à réal d'un film comme ça? Et après il y a eu Internet, Cyprien, les Norman, les Natou, et je voyais en fait qu'ils arrivaient à faire sur Internet des choses avec très peu de moyens. Et je me suis dit bah attends... ils font ça avec rien et parfois en prenant le caméscope de leurs parents au début quoi. Du coup moi je peux le faire quoi. Et j'ai commencé du coup en bah, comme eux quoi. À l'époque comme un musicien qui va adorer un artiste, il va le copier. Et moi bah je reproduisais plein de trucs que je voyais sur internet. J'essayais de faire des petits clips, des parodies, des petits sketchs. Alors c'était horrible au début quoi, parce que j'avais genre 12-13 ans. Et à force bah d'apprendre de ses erreurs, de se planter, de refaire. Je commençais à faire des trucs qui étaient un petit peu visibles, quoi, entre guillemets. Et après, vu que le web à l'époque c'était un tout petit milieu et qu'il y avait très peu de gens qui créaient réellement du contenu, bah en fait, mon nom est vite ressorti parmi tous les gens et j'ai été contacté par des gens qui faisaient du contenu sur le web à plus grande échelle et j'ai intégré du coup leurs équipes et j'ai commencé comme ça, quoi. Mais je devais avoir, quand j'ai commencé à me professionnaliser, entre guillemets, là-dedans, je devais avoir, 17 ans. 16-17 ans et j'ai eu la chance du coup d'avoir ça très jeune et de pouvoir commencer du coup à travailler très jeune parce qu'à 18 ans je faisais déjà des trucs pour la télé tu vois, mais c'est parce que depuis que j'avais 12 ans je me butais en gros à ça, je faisais rien d'autre et je me disais bah je veux y arriver donc je vais mettre tous les moyens qui sont à ma disposition pour y arriver et pour arriver à créer du contenu quoi.
Et au début que tu faisais ces créations là du coup t'étais aussi devant la caméra ou c'était...
Je me suis jamais montré moi, j'ai toujours kiffé cette position de mec dans l'ombre qui un peu tire les manettes quoi, enfin, tu vois, qui tire les ficelles et de mettre en avant des gens devant. Tu vois par exemple moi quand je faisais des trucs à l'époque dans mon collège ou dans mon lycée, je prenais mes potes à moi pour faire les comédiens ou pour quand je faisais des parodies de clips, je prenais mon meilleur pote pour faire les playbacks de la chanson qu'on parodiait. Tu vois, mais moi j'ai jamais aimé. Je prenais des cours de théâtre quand j'étais au collège ou au primaire parce que tout le monde en faisait quoi, mais j'ai jamais aimé me montrer. Moi j'aime bien être dans l'ombre et me dire que je suis l'espèce de game master, tu vois, qui dirige un peu tout, tu vois. Mais j'aime pas trop montrer. Même aujourd'hui, tu vois, on me voit parce que, comment dire, il y a, par exemple, les contenus de Squeezie, ils parlent souvent de moi, ou parfois j'apparais dans quelques vidéos. Mais j'aime bien. Je suis pas très à l'aise avec ce truc de on te reconnaît dans la rue, de t'es une personnalité publique. Pour avoir beaucoup d'amis qui sont ça, tu vois. Moi, je vois en fait les côtés positifs de ça. Je vois aussi beaucoup les aspects négatifs parce que je suis dans leur intimité et je me rends compte à quel point ça peut être pesant. Moi, je suis très heureux un peu dans mon anonymat et à me dire par contre que les gens qui me reconnaissent vraiment, c'est qu'ils sont réellement intéressés au truc que j'ai fait. Et du coup, leur approche, elle va être très bienveillante de poser des questions, de me dire qu'ils ont aimé ou non, tu vois, ça va les intéresser. C'est pas juste quelqu'un qui va me demander une photo juste pour avoir une photo avec moi. Ou là, pour le coup, moi, j'ai un peu tendance à le prendre comme un... pas un viol d'intimité parce que c'est beaucoup trop fort comme mot, mais dans ta vie de tous les jours, j'ai pas envie d'être arrêté pour ça, tu vois. Mais les gens qui le font sont souvent bienveillants. C'est juste que moi, je préfère être du côté un peu obscur et me dire que les gens qui m'arrêtent sont vraiment des gens qui sont vraiment intéressés au sujet.
Ouais, et du coup, tu parlais de tes 17 ans où tu t'es un peu professionnalisé. Est-ce que à ce moment-là, c'est une étape où tu vas entamer des études de cinéma ou
Alors, j'ai fait. Moi, comment dire, j'ai commencé à bosser dans une prod avant d'avoir mon bac.
Ok.
Et en fait, j'ai fait une école de cinéma. Je me suis fait virer de mon école de cinéma.
D'accord.
J'ai fait l'ESRA. L'ESRA qui est une très bonne école, hein, ça a formé tous les techniciens aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas remettre en question la valeur de l'ESRA. Mais ils avaient un peu du mal à faire la transition avec cette nouvelle manière de produire, le matériel et tout. Par exemple, YouTube, ils disaient c'est pas un métier, tu vois, c'est un hébergeur de vidéos, c'est pas un métier. Et du coup, moi, ils ne considéraient pas vraiment ce que je faisais. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je disais, là, hier, je tournais pour Secret Story le générique et on tournait au 5D. Ils me disaient non. Bon, j'étais un peu insolent et je pense j'avais envie de leur rentrer dedans et de leur dire bah si les gars je l'ai fait. Donc du coup j'étais pas docile quoi. Et voilà, et du coup j'ai arrêté l'ESRA en milieu de deuxième année.
Et ce studio de production, comment tu y étais entré du coup si jeune en plus?
Alors je peux te raconter l'histoire. En gros, à l'époque sur internet, il y a un buzz qui a eu lieu sur Dailymotion qui s'appelait Garocon, qui était une parodie de Coxy. C'est okay. Très très vieux, hein. ça a, je pense, 15 ans quoi. Et c'était fait par un collectif de jeunes amateurs qui avaient 17 ans, moi j'en avais 12 à l'époque, qui s'appelait Indabuzz. Et c'était du coup un regroupement de 3 personnes, c'était Ludoc qui était réalisateur, Ludovic qui était comédien, et un mec qui s'appelle toujours Charles, qui était aux effets spéciaux et un peu à la technique quoi. Et en fait, ils ont fait cette parodie avec rien du tout, un caméscope, ils avaient fabriqué un travelling avec des tubes en PVC, un plateau en bois, des roulettes de roller. Et moi j'étais là, putain, attends, c'est ouf ce qu'ils ont fait quoi. Ils ont 17 ans, c'est ouf ce qu'ils ont fait quoi. Et du coup, à l'époque, cette vidéo elle a vraiment cartonné quoi. Et il y a toute une communauté un peu de petits geeks comme moi qui voulaient comprendre comment ça avait été fait. Eux ils avaient créé un forum et ils produisaient plein d'autres contenus, mais à l'arrache, tu vois. Et en fait, eux, quelques années après, ils ont été contactés par deux producteurs qui s'appelaient Julien et Mathieu Allard, qui ont transformé Indabuzz, ce collectif, en IDZ, une boîte de prod. Okay. Et en fait, eux, ils ont commencé à faire beaucoup de trucs pour la télé parce que c'était des jeunes très doués et très réactifs et que du coup, ils arrivaient à produire des trucs pour la télé qui étaient beaucoup mieux que ce qui se faisait à l'époque pour beaucoup moins cher. Et Ludoc, je crois que Ludoc avait un peu retenu mon profil parce que je faisais beaucoup de choses et que je me démarquais un peu des autres, quoi. Et du coup, j'ai été contacté par les prods de cette boîte. Moi, j'avais l'impression que c'était Dieu qui me contactait parce que c'est eux qui m'ont donné ma passion, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est eux qui m'ont montré que c'était possible, tu vois. Donc, j'étais, grave, les gars, mais je suis au lycée, quoi. Enfin, et vu que c'est l'émergence un peu de la TNT, donc il y avait plein de nouvelles chaînes sans argent qui avaient besoin de créer du contenu. Donc, c'est pour ça que cette boîte marchait autant à l'époque.
Okay.
Et en fait, on a commencé à m'appeler pour faire des compètes de générique télé. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a un générique télé, en général, tu as des boîtes dont c'est le métier de faire des génériques télé. Et il y a une idée qui est écrite, tu vois. Et ils mettent en compétition, par exemple, 3 ou 4 réals pour proposer la meilleure idée. Et moi, un jour, j'ai gagné une compète. Quand j'étais tout jeune, je devais avoir 18 ans, pour un générique qui s'appelait... Fidèle au poste, sur France 4. Okay. Et en fait, moi, j'avais juste fait un générique... qui aujourd'hui est très banal, mais où je faisais l'animateur qui se réveille de son lit et qui arrive au plateau de télé, tout ça filmé en POV, tu vois, avec une caméra sur le front. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop, il n'y avait pas trop de gens qui faisaient ça, il y avait un clip ultime qui était Smash My Bitch Up de Prodigy qui avait pris cette mécanique-là. Et moi, du coup, je l'avais fait dans un générique, et en fait, le générique avait bien marché, c'était grave cool. Et du coup, ça m'a un peu ouvert les portes de il y a plein d'autres émissions ou d'autres trucs qui voulaient que je leur fasse des génériques télé. Donc pendant 2 ans, j'ai fait énormément de ça, d'habillage télé, de générique, de trucs, de machin. Et en fait, la boîte dans laquelle je bossais, IDZ, tu vois, est devenue, quand Studio Bagel s'est créé, la prod de Studio Bagel.
Okay.
Donc en fait, c'est IDZ qui gérait Studio Bagel. Et donc vu qu'IDZ, on y avait plus ou moins 2 réals, qui étaient Ludoc et moi. Bah, en fait, Ludoc s'est retrouvé la première année à faire quasiment tout Bagel. Et moi, je faisais des making-of, j'aidais à monter, je faisais plein de choses. Et en année 2 du Studio Bagel, on se partageait les réals, quoi. Enfin, on était les 2 réals du truc, quoi. Mais donc, je suis passé de la télé, après 2 ans de télé, au web. Et après, c'était un tout petit monde, le web, à l'époque. C'était il y a 10 ans, tu vois, tout le monde se connaissait. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Cyprien, Squeezie, tous les autres, Norman et tout.
Et est-ce que chaque production avait son propre matériel ou c'est toi qui demandais à
ça dépend. Sur le web, on était toujours, à l'époque, on avait très peu de moyens, donc on était toujours au 5D, au 7D.
Okay.
Donc, le 5D et le 7D, je pense que personne d'autre que nous le maîtrisait mieux que, enfin tu vois, on vivait avec quoi, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, on le hackait parfois le 5D pour mettre des courbes dedans de tournage, tu vois, qui étaient différentes, tu vois, pour pouvoir faire un étalonnage mieux, enfin tu vois, on connaissait la machine par cœur, et quand c'était des gros génériques télé, en vrai, t'as des équipes, c'est-à-dire que toi en tant que réal, t'es là pour imposer ta vision, ton découpage, tes trucs, mais t'es un chef-op qui gère la cam, tu vois. Mon premier congénérique télé, je me rappelle, je devais avoir, je sais pas, 19 ans, tourné en raid, et c'était un gros truc avec Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Bah, la raid, je la touche pas, moi, tu vois. Je dis le plan, c'est ça, je fais le cadre, le truc, mais la cam, en fait, je l'ai pas en main. Enfin, je cadre, mais je fais pas les réglages, tu vois. Donc au final, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Et en fait, mine de rien, c'est assez simple le matériel aujourd'hui, quoi, tu vois. Enfin, autant à l'époque, les 5D, les 7D, il fallait quand même creuser un peu. Mais une fois que tu connais la règle des ISO, du DIAF, de l'exposition, de tout ça, en fait, ça va assez vite, quoi. C'est juste un médium, en fait. Tu vois, à partir du moment où tu connais, enfin, que ce soit un appareil photo, une caméra à 50 000 balles ou un appareil à 2000 balles, t'as toujours les mêmes ISO, c'est ce que tu peux monter plus ou moins haut, toujours le même DIAF, tu vois, c'est toujours plus ou moins les mêmes codes. Donc en fait, que tu conduises un kart ou une voiture, c'est pareil, en fait, tu vois, t'as deux pédales et t'y vas, quoi. C'est pareil pour les cars, en vrai, tu vois.
Ouais. Et du coup, est-ce que vous bossez avec cette multitude de clients, on va dire, t'arrivais quand même à trouver une patte à toi, une liberté de création, ou c'était quand même très imposé les choix
en télé, pas trop, parce qu'en télé, pour le coup, tu dois vraiment coller à un édito qui est très précis, même dans le cadre d'un générique, tu vois, ça doit durer tant de temps, tu sais que ça doit cibler tel style de gens, tu vois. Donc là, pour le coup, j'étais vraiment un réel de commande très exécutant. Et après, par contre, sur le web, quand on faisait du bagel, les auteurs, ils arrivaient avec un texte qui était bien, tu vois. Et après, moi, c'était à moi d'imposer ma vision et de dire, bah, les gars, en fait, ce texte, on peut le faire de plein de manières différentes. Moi, je pense que c'est cette manière-là. Enfin, je pense qu'il faut le faire de cette manière-là. T'avais un auteur qui disait, ouais, mais moi, en fait, je voyais plus comme ça. Ah, ok, donc attends, on peut prendre un peu de ça, on peut prendre un peu de ça. Et là, pour le coup, je pouvais, moi, mettre plus de moi dans le projet, quoi. Mais en télé, c'est très impersonnel. Tu vois, t'as pas envie de savoir que tel ou tel contenu a été fait par tel réel.
Oui,
t'as
oui,
juste
oui,
envie de
clair.
Voir le contenu. Alors
c'est
qu'au Beagle, même sur Internet, tu peux te dire, ah, bah tiens, ce film-là, c'est du Ludoc, parce que je reconnais les codes de Ludoc. Ah, tiens, ce film-là, c'est du Théo Bonnet, parce que je reconnais un peu son style, tu vois. Et là, c'est cool, parce que tu mets le plus de toi. Mais en télé, pas du tout.
Est-ce qu'un clip, du coup, comme tu fais avec t'as fait avec plein de youtubeurs des clips, et est-ce que faire pour Big Flo et Oli, du coup, qui n'est pas vraiment connu pour son contenu YouTube et qui n'a pas déjà un univers... Enfin, ils ont un univers musical, on va dire, mais ils n'ont pas une image comme un YouTuber a son image sur YouTube. Est-ce que, du coup, c'était vraiment un travail très différent
C'est en fait, moi, je me pose pas trop la question de savoir si c'est pour YouTube ou pour des artistes.
Okay.
C'est plus que... en fait, moi, mon métier, à proprement parler, c'est réalisateur de commandes. Ça veut dire que, évidemment, que ça m'arrive de réécrire des trucs, mais en fait, moi, j'ai jamais encore fait l'exercice de prendre un texte, l'écrire moi et de le tourner moi. À chaque fois, c'est des gens qui viennent me voir pour me dire « J'ai cette idée, j'ai ce script, j'ai ce truc, je voudrais que tu le réalises. » Donc moi, mon objectif en tant que créateur de commande, c'est de satisfaire la personne qui me fait la commande, tu vois. Après, dans le cas de Fleu Oli, c'était un son qui était un peu de l'ego trip, quoi. C'était nous aussi deux, ils jouent ça, ils jouent l'insolence à balle. Donc il fallait arriver à jouer sur le côté un peu second degré des propos et montrer des trucs, tu vois, il y a des montagnes de billets, enfin c'est nimp, mais moi mon objectif, quoi qu'il arrive, c'est de satisfaire la personne qui m'a commandé. Enfin tu vois, quand je fais une vidéo de Squeezie dans le même mois que le film d'intro de la cérémonie des Césars, ça n'a rien à voir, tu vois. Et pour autant, quand tu peux même pas te douter que c'est la même personne qui a fait les deux projets, et pour autant c'est moi et je me suis autant amusé à faire les deux.
Mais t'as justement abordé les Césars, c'est un point sur lequel je voulais aussi venir plus tard, mais est-ce que travailler pour du coup le cinéma, et ça a été du coup un de tes points de départ toi aussi, la passion pour le cinéma, est-ce que c'était une forme d'objectif au départ de ta carrière ou pas? Parce que je sais que t'as aussi été invité à Cannes cette année, qu'est-ce que ça fait finalement de travailler pour le cinéma en quelque sorte?
Bah c'est cool, oui en effet, je pense que quand t'as 12 ans et que tu te dis que tu... Enfin en fait t'as que le cinéma qui existe. À l'époque, il n'y avait pas Internet.
Oui,
tu vois.
C'est clair.
Nous, c'est un truc qu'on dit souvent avec Squeeze, c'est que tu pouvais pas rêver d'être youtubeur parce que ça n'existait pas, quoi, tu vois. Donc forcément, le cinéma, c'est un truc qui reste et restera sacré. Tu as une relation un peu intime avec tes spectateurs. Tu vois, les gens, quand ils vont voir un film, ils sont dans le film. C'est pas genre ils sont sur YouTube ou sur Netflix, sur un ordi, et ils bouffent des sushis en même temps ou ils font autre chose ou ils jouent à Clash Royale, tu vois. Il y a un vrai truc, en fait, où c'est très cérémonieux comme truc. Donc oui, c'est sûr que le cinéma... ça reste un objectif, et dans le cadre des Césars, c'était une compète comme beaucoup de projets comme ça où en fait ils demandent à plein de réals de faire une note d'intention,
okay.
Tu vois, et de proposer la meilleure idée. Et là, moi j'ai eu la chance de gagner là-dessus, et, parce que j'avais déjà fait un truc pour les Césars en 2018. Moi j'avais déjà bossé avec De Cône, que j'adore dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans tout ça, et c'est un mec super. J'avais déjà bossé avec lui, et là le fait qu'il revienne à la cérémonie des Césars et qu'ils veulent faire un film vraiment Hollywood, quoi, tu vois. J'avais une grosse pression, quoi. J'étais en mode putain, là, je peux pas me planter, quoi. Tu vois, là, c'est pas genre une vidéo internet, je peux pas me planter. Et ouais, c'était même d'être dans la salle au moment où le film est projeté, c'est, t'as une vraie pression, quoi. Parce que tu sais que ça rigole pas, quoi. Enfin, tu vois, et quand t'arrives à décrocher un rire aux gens, même un, t'es là. Déjà, ils ont souri, quoi. Tu vois, c'est cool. Mais non, c'était hyper intéressant à faire. Ouais, c'était ma petite pression du début d'année, là. J'ai beaucoup de chance, en vrai, de pouvoir passer d'un format à l'autre. C'est très rare, les réals qui peuvent switcher d'une émission à un film, à un sketch, à un clip. Et moi, j'ai la chance qu'on m'appelle pour tous ces trucs-là. Donc, c'est trop bien, tu vois. Je suis très heureux, là, pour le coup, de tout ça.
Mais justement, tu parles de switcher, et c'est vrai qu'il y a un des gros projets de ta carrière, c'était aussi Groom. Ouais. Qui a quand même été une série qui a vraiment bien marché avec Canal+ et tout. Comment c'était quand t'es arrivé sur ce projet, du coup
Bah, Groom, en vrai, ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était Studio Bagel. Tu vois, pareil, à l'époque, encore une fois, on était deux réals au Bagel. Et plus le temps passait et plus on faisait du contenu, plus on s'affirmait dans nos styles. Et tu vois, par exemple, Ludoc, il allait plus vers un style de film d'action, tu vois, avec des trucs très dynamiques, des courses-poursuites de voitures, des guns, et il excelle là-dedans. Et moi, j'avais l'impression que ce qui me plaisait plus de faire, c'était plus de la comédie, quoi. Moi, j'adore avoir un plan large et filmer de personnes qui se parlent parce que ça me fait rire, tu vois. Ludoc, j'ai l'impression que ça l'intéresse moins, ce genre de sujet. Et du coup, assez naturellement, vu que moi, j'allais plus là-dedans, Axel a commencé à me parler de Groom, tu vois, de l'envie de créer cette espèce de web-série avec plein de personnages qui allait pas être surréalisé, parce que c'était pas le but. En vrai, quand t'as un texte qui est drôle et que tu le surréalises, il est moins drôle, parce que t'es concentré sur la réalisation et pas sur le texte. Et il me demandait, est-ce que toi, ça t'intéresserait de faire un truc qui n'est pas tout ce qu'on fait au Bagel depuis des années? Et moi, j'étais hyper chaud, mais j'étais tout jeune, j'avais un peu peur, en vrai, à l'époque, parce que, bah, tu rentres dans une autre économie, quoi, tu vois. Tu signes pour 9 semaines de tournage, et même si c'était dur et qu'on en a, on a vraiment beaucoup souffert pour plein de raisons sur cette série, bah, on a appris énormément de choses. Et on est très content de la série, elle a marché, tu vois, elle a vraiment trouvé son public. On est la seule qui a une saison 2, c'est trop bien, tu vois, on est trop fiers de ça. Et je regrette en rien de l'avoir fait, tu vois, c'était trop trop cool. Et d'ailleurs, on devait faire une saison 3, et avec le Covid, ça a été annulé, ciao, quoi. Mais tout ça pour dire que, ouais, nous, par exemple, on est beaucoup plus fiers de la saison 2 que la saison 1, parce que, bah, dans la saison 2, on a appris énormément de nos erreurs de la saison 1, et on a essayé, bah, de booncer le truc, de corriger plein de choses, tu vois.
Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour plus tard, d'essayer d'enseigner aux jeunes ce que tu as appris toi aussi au fil des années, ou
Je pense, en fait le livre de Ludoc, il est super parce que c'est généraliste à balle. Ouais. Et en fait, je pense que moi, quand j'avais 12 ans et que je commençais à faire des vidéos, j'aurais adoré avoir c'est ce clair. Bouquin et tout lire et me dire ok, c'est super et tout. Je pense que Ludoc aussi est un bon pédagogue dans le sens où il va être très technique, très précis, tu vois, il va vraiment expliquer les choses avec des métaphores très concrètes. Là, il fait plein de formats sur les plateformes, sur YouTube, ouais. Sur TikTok, où il explique plein de choses, plein d'anecdotes, et c'est hyper intéressant à chaque fois. Moi, je sais pas si j'ai vocation à vouloir transmettre de cette manière-là. T'as, moi, j'adore, là, par exemple, ce qu'on vient de faire au Frame, tu vois, avec Pierre de Combini. C'est trop bien parce que il me pose des questions en fait sur des trucs que moi je vis, sur mon expérience, et moi de les raconter, déjà ça me rappelle des bons souvenirs et ça me plaît, tu vois, ça me permet de me replonger dans les projets et j'ai l'impression que ça peut intéresser des gens. Donc moi, de cette manière-là, parler de mon expérience et de parler des galères que j'ai pu avoir, de comment j'ai progressé, de comment j'ai appris, grave, parce que c'est trop intéressant de le faire. Comment dire, le faire de la manière dont Ludoc l'a fait, à savoir passer un an à écrire un bouquin et tout, j'ai pas le courage, et surtout je pense que c'est pas mon truc, tu vois, je serais pas bon là-dedans, parce que moi je considère en fait avoir encore énormément à apprendre avant de pouvoir me dire je fige un truc dans le temps sur comment on doit faire les choses, tu vois. Des trucs comme le film des Césars, mine de rien, j'ai dû en faire, c'est un sketch, mine de rien, tu vois, c'est un sketch de 7 minutes, j'en ai fait des centaines et des centaines. Et j'apprends encore, tu vois. Je me dis encore, ah bah là, en fait, c'est vrai qu'en faisant ça de cette manière-là, ça évoque plus ça. Ah ok, tu vois. Et du coup, moi, de figer un truc dans le temps, je me sens pas légitime à le faire. Mais encore une fois, faire des interventions, moi, ça m'arrive souvent de parler dans des facs ou dans des trucs comme ça. Et c'est trop intéressant parce que même les gens, parfois, posent des questions auxquelles moi, je pense même pas. Et je me dis, mais c'est vrai, putain, que ça me paraît évident, mais en fait, ça l'est pas. Et le fait de le redire et de le verbaliser, ça te replonge dans le truc et c'est trop intéressant, tu vois.
C'est clair. Et il me semble depuis quelques temps que tu partages aussi des moments où tu fais de la musique. Ouais. Et je voulais savoir si tu comptais continuer ça aussi ou pas.
C'était un truc de confinement, ça. En fait, moi, je fais de la musique depuis toujours.
Okay.
Mais c'est vraiment pour m'amuser, quoi. Enfin, j'ai jamais. En fait, j'ai beaucoup de potes. Ce qui est dur, c'est que j'ai beaucoup de potes qui sont des artistes qui sont des vrais musiciens que j'admire ou pour leur texte ou pour leur musique ou pour leur savoir-faire ou pour la capacité qu'ils ont à jouer d'un instrument très très bien. Et moi j'ai toujours fait du conservatoire, de la musique de partout, mais en fait je me sens absolument pas légitime quand t'as des amis dont c'est le métier de dire bah moi les gars je fais un truc, tu vois. Donc là en fait c'est juste que je fais de la musique depuis toujours, mais je m'amusais depuis quelques années moi à faire du sampling en fait. Mais je le faisais écouter à personne quoi. J'avais dû faire écouter à mes parents vite fait, à 2-3 potes, tu vois. Quand, s'il y en a une qui ressort un jour, c'est qu'il y a un mois où vraiment je suis au chômage quoi. Donc espérons que ça arrive ou que ça n'arrive pas, on verra. Mais non, pour le coup, il n'y a aucune prétention, c'est vraiment fait pour les potes. Et moi à la base, je voulais vraiment faire ça pour mes potes en mode regardez, je fais un truc marrant. Ça a un peu pris sur Insta. Attention, toute proportion gardée. On n'est pas du tout sur un méga buzz. Mais non, c'est vraiment pour m'amuser, pour me détendre quoi.
Ok. Et dans tes futurs rêves ou objectifs, est-ce que du coup le cinéma ça en fait partie? Est-ce que écrire pour toi et réaliser ton propre projet ça l'est aussi ou...
Ça en fait partie, ouais. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, faire un film, ça restera toujours un objectif. Mais en fait, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir un peu tourner tout le temps quoi, pouvoir un peu faire ce que je veux, de pouvoir choisir mes projets aussi beaucoup. Bon là il se trouve qu'on a créé une structure avec Squeeze, on développe plein de formats, plein de jeux, plein de contenus, plein de fictions aussi. Donc je suis à plein temps là-dedans quoi, et ça me bouffe la vie, on dirait que c'est péjoratif. C'est juste que ça me prend énormément de temps, mais je suis très heureux, c'est super. Et du coup, faire un film, oui, mais... J'avais un peu une espèce de FOMO quand j'étais jeune où on me propose moi des scénarios de films depuis que j'ai genre 22-23 ans et j'ai toujours refusé parce que je me considérais pas encore assez prêt ou assez mûr pour pouvoir faire un film. Et en fait les producteurs, tu sais, ils voyaient, mais ils disaient « Mais il fait des courts-métrages à 30 millions de vues, donc s'il fait un film, il va faire des millions d'entrées. » Non, pas du tout, tu vois, ça marche pas comme ça. Et au-delà de ça, aujourd'hui je pense que je suis assez... Ça fait 10 ans que je fais ça, tu vois, donc je suis prêt. C'est-à-dire que si tu me files, s'il y a un scénario qui me plaît vraiment, je pense que je suis capable de le porter, de l'incarner et de faire un bon film, mais j'aimerais bien que ça soit au moins une idée à moi, c'est-à-dire avec un sujet qui me touche, pour pouvoir me dire « Ok, là c'est mon film quoi, c'est mon truc ». C'est un peu ce qui s'est passé à l'époque avec Clash Asteroid sur Studio Bagel. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais je l'ai réécrit, on l'a bossé, j'ai composé les musiques avec les gars, enfin, tu vois, je me suis vraiment investi. Mais en fait, t'investir, comme je me suis investi sur Clash Asteroid à l'échelle d'un film d'une heure et demie, en fait, bah, c'est 2 ans de ta vie où tu fais rien, tu vois. Et encore une fois, j'ai envie de le faire, mais là maintenant, tu vois, je vais avoir 30 ans et j'ai un truc de ça fait 10 ans que je mets ma vie de côté pour mon taf. Je commence à arriver un peu à là où je voulais arriver, à être plus serein, parce que quand t'es jeune, t'as envie de tout faire, t'as envie de ne pas dire non, faut que tu fasses tout, tu dors pas et tout. Là maintenant, j'arrive à savoir quel projet il faut que je fasse, quel projet il faut que je fasse pas, j'arrive à plus me poser. Donc c'est sûr que oui, faire un film un jour, j'espère que je vais faire un film avant de mourir quoi, mais je veux bien le faire et je veux vraiment faire un sujet qui me touche. Et pour le coup, ce qui est dur, c'est que si je fais tout ça et que le film, moi je l'aime, mais qui par exemple ne marche pas, bah il marchera pas quoi. Je me dirais bah c'est horrible, j'ai mis 2 ans de ma vie pour faire un film qui fait 50 000 entrées.
Ouais, c'est clair.
Mais au-delà de ça, moi ce que je veux le plus, c'est être fier du truc. Et même s'il marche pas un jour, si moi je suis content du film et je me dis putain, j'ai réussi vraiment à poser dans un médium quelque chose qui me touche, là j'aurais réussi le truc quoi. Et sinon, au-delà du cinéma, ouais, nous là on prépare plein de trucs avec Lucas qui sortent vraiment de l'ordinaire pour le coup, enfin en tout cas qui sortent de ce qui se fait traditionnellement sur le web. On prépare de la fiction, ça c'est cool, c'est dans les tuyaux aussi, donc ça va être la première fois qu'il y a de la fiction sur sa chaîne, donc ça c'est intéressant aussi. Et là en ce moment on développe aussi beaucoup de jeux à grande échelle, et pas forcément pour YouTube. Je peux pas trop en dire plus, mais on essaye de créer des nouveaux formats hybrides entre ce qui existe à la télé, ce qui existe sur les plateformes, ce qui existe sur le web, et d'en faire un truc un peu alternatif, qui nous parle à nous, qui nous plaît à nous. Et normalement, ça devrait voir le jour. Plein de choses devraient voir le jour là dans les 2 années qui arrivent. Quoi.
Bon, on suivra l'actu alors.
Bah, avec plaisir.
Bah, écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. Et on suivra tout ça du coup, de très près.
C'était Margot en compagnie de Théodore Bonnet pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.